If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Comment choisir un business model adapté à ton ambition? Allez, c'est le sujet du jour, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, ma patate, l'énergie, que toi bien pour vous. Bienvenue dans Cheveux Blancs et Idées Longues, c'est le podcast dans lequel je vous parle de cette forme d'entrepreneuriat que vous voulez choisir, que vous avez envie de vivre et comment vous pouvez le faire. Quelles sont les stratégies pour construire un business, la vie de vos rêves, et on traite les sujets marketing, entrepreneuriat, organisation, état d'esprit, la forme, la santé aussi, et le choix du business model a un impact un petit peu sur tout ça en fait. C'est vraiment une question qui est centrale, mais c'est une question qui est extrêmement compliquée et qui, je pense, on ne peut pas trancher comme ça juste en quelques minutes. Donc je voulais vous donner quelques pistes de comment réfléchir à ça et qu'est-ce qui est possible. Déjà, il faut le dire, quand on prend Internet, il y a énormément de business models. On peut trouver, on peut lister, faire des listes complètes de business models. Là, j'ai pris quelques minutes. J'ai failli demander à ChatGPT de me faire une liste, mais j'ai eu peur qu'elle soit trop longue. Donc, j'en ai pris quelques-uns que j'avais en tête comme ça. Comme par exemple, création de contenu avec de la pub ou des partenariats. On pourrait penser par exemple au podcast. L'exemple très connu par exemple, c'est je fais des vidéos sur YouTube. YouTube me rémunère par la publicité, je touche un peu partie de la publicité, etc. Voilà, c'est un format qui existe, qui est répandu. Il y a beaucoup de créateurs qui vivent de ça. Et ça fonctionne. La vente de formation en ligne notamment, la vente de produits numériques. Alors par exemple, dans les produits numériques, on peut penser à des e-books. On pourrait penser aussi à des petits outils en ligne. Par exemple, il y a ceux qui vendent des espaces Notion, il y a ceux qui vendent des calculateurs en ligne, genre des tableaux Excel très compliqués. On pourrait penser à des services en ligne, enfin tout ce qui est SaaS et compagnie, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de produits numériques qu'on peut vendre en ligne. Produits physiques aussi, qu'on vend sur des boutiques en ligne, donc tout ce qui est e-commerce. Alors, je parle même pas du dropshipping, qui est une forme finalement de vente en ligne, mais qui existe aussi. Le coaching, le freelancing, le consulting. Alors la différence entre coaching et consulting, c'est toujours un petit peu tenu dans les différences. Le consulting, on est surtout sur l'apport de réponse, le question, mode question, réponse, etc. Alors que dans le coach, on est plutôt, le coach, il pose plutôt les questions pour que la personne réfléchisse et trouve les outils elle-même. C'est toujours très, la différence entre les deux est souvent très faible dans certains cas, dans certaines consultations. On sait pas trop si on est sur l'un ou sur l'autre, en tout cas. C'est vrai que le terme coaching est quand même plus tendance, plus à la mode, etc. Même si souvent, finalement, ça ressemble à du consulting. En tout cas, c'est souvent le cas qu'on voit comme ça. Freelancing, ça c'est très connu. C'est tout ce qui est finalement faire les choses pour quelqu'un d'autre, tout simplement, avec nos compétences et autres. Donc là, on est dans du très classique, j'ai envie de dire. Quelque chose qui est maintenant très répandu. Ce sont des formes la plupart ont toujours existé d'une forme ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de dire. C'est juste qu'Internet permet des fois d'avoir une clientèle qui est plus large, de lui parler différemment, d'avoir des services différents, etc. Voilà, donc il y a toujours en fait ces choses-là qui ont pu exister. Le coaching, le consulting, la sous-traitance, etc. Donc le freelancing ne sont pas des choses nouvelles en elles-mêmes. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi des opportunités qu'on peut saisir parce qu'Internet nous offre des opportunités de le faire, par exemple depuis chez soi. Et ça fait partie du mode de vie. La communauté payante aussi, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a des gens qui ont des communautés payantes. Il y a des grosses communautés avec des espaces payants dedans. Et certaines personnes ont construit des gros business avec des communautés payantes. La newsletter aussi, par exemple. Avoir une newsletter avec une newsletter gratuite, une newsletter payante, une newsletter sponsorisée. Il suffit de regarder par exemple l'exemple de Snowball. Oui, ça marche. Il faut le dire, ça marche. Il y a des exemples américains aussi qui marchent, anglais qui marchent. Dans quasiment tous les pays, on trouve des exemples de newsletters qui marchent bien. C'est vrai qu'en France, l'exemple de Snowball, par exemple, est un exemple qui... On voit qu'il y a un gros business qui a été construit autour de ça, avec un vrai sujet important pour plein de gens. Donc ce qui fait que il a pu arriver en fait à avoir beaucoup de personnes abonnées et qu'il a réussi à la suite à les transférer sur des offres payantes. Je pourrais rajouter, j'ai mis une newsletter, mais parce que ça me fait penser aussi, par exemple, il y a les les canaux type WhatsApp, Telegram, qui peuvent être payants, on voit ça aussi. Donc, c'est des choses qui existent. L'écriture de livres aussi. Il y a des gens qui arrivent à vivre de l'écriture de livres. Hein. Il y a beaucoup de gens qui rêvent. On disait que la France est un pays littéraire quand même, hein, que quasiment tout le monde a un projet de livre dans les cartons. Combien de personnes arrivent à publier un livre? Ça, c'est une autre question. Alors déjà, arriver à l'écrire, hein, à le finir, c'est déjà une difficulté. Ensuite, à le faire éditer, c'est encore une autre difficulté. Même si maintenant, avec l'auto-édition, par exemple, hein, on arrive à le faire beaucoup plus rapidement. Je t'en parlerai dans ce que j'ai testé moi à la fin. Et puis, il y a aussi, par exemple, les modèles type Patreon. Patreon, c'est... Alors, Patreon, mais il y a d'autres structures, hein, Ko-fi, etc. C'est moi, je fais du contenu, et puis vous pouvez soutenir mes créations en donnant un petit peu d'argent, du récurrent tous les mois. Voilà, ça fait partie des modèles qui existent. Et il y a des gens, par exemple, je pense à Patrick Béja, avec ses podcasts type Rendez-vous Tech, etc., qui gagne de l'argent et confortablement la somme dessus n'est et c'est pas une somme négligeable, je veux dire que c'est pas un pourboire, c'est une vraie somme, il vit de ça. Et donc tous ces modèles fonctionnent, c'est-à-dire que tous ces business models comprennent tous, on trouve systématiquement des personnes dedans pour qui ça fonctionne et forcément aussi systématiquement des gens pour qui ça n'a pas fonctionné. Alors bien sûr, on a un petit peu le syndrome du survivant, hein, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup ceux qui pour qui ça fonctionne et puis on oublie que derrière, eh ben il y en a plein pour qui ça n'a pas fonctionné, hein. C'est le syndrome du survivant, c'est vraiment ça, c'est on met en avant, là je parlais par exemple de Snowball sur les newsletters. À côté de Snowball, il y a plein de newsletters de gens qui voudraient sponsoriser leur newsletter, etc., et qui voudraient déjà la développer, qui n'arrivent pas à avoir l'audience telle que ça, hein, et c'est parce que ça reste compliqué. Chaque business model, en fait, a ses aspects plus faciles, ses aspects plus compliqués, tous peuvent marcher, et tous peuvent ne pas marcher du tout. Donc attention, parce que dans ces histoires-là, en fait, il y a beaucoup d'objets brillants, syndrome de l'objet brillant aussi, hein, c'est finalement ce truc-là là, qui est là, il a l'air super sympa, et qui va nous faire aller d'un truc à l'autre. Alors, je suis pas contre aller d'un truc à l'autre parce que, vous allez voir à la fin, je suis allé dans tellement de trucs différents que je peux pas dire qu'il faut rester toujours dans son truc et ne plus en bouger. Non, on peut aller d'un truc à l'autre, mais en fait, quand on bouge de business model, il faut savoir pourquoi on bouge, en fait. Et c'est ça qui est important dans le choix du business model et sur lequel je voudrais revenir après, c'est pourquoi on bouge. Alors, il y en a qui bougent parce qu'il y a l'objet brillant. Voilà, c'est par exemple, il y a eu plein d'articles sur les newsletters. Et comment on peut gagner de l'argent avec des newsletters payantes, etc. Et puis tout d'un coup, on veut voir des gens qui vont abandonner ce qu'ils font jusqu'à maintenant ou qui vont lancer notre activité pour se dire « je vais faire la newsletter ». Et ça marche pas, ou ça marche pas comme ils veulent, etc. Et puis d'un coup, à côté, ils voient un autre truc qui passe, ils disent « ah ben je vais faire ça ». Alors, par exemple, en ce moment, on pourrait dire qu'il y a une tendance. Moi, je vois quand même beaucoup de gens qui disent « je vais créer une agence ». Alors, il y a l'agence de ceux qui veulent faire des agences d'influence, des agences... Et encore, ça fait un bout de temps qu'on le voit. Il y a ceux qui veulent faire des agences pour créer des tunnels de vente. Il y a les agences pour ceux qui veulent accompagner les diététiciens, etc. Alors, sur le papier comme ça, on dit, bah tiens, est-ce qu'ils sont freelance? Non, pas vraiment. Est-ce qu'ils sont consultants, coach? Ben, pas vraiment. Ils sont un peu plus. Le fait d'être en agence, c'est de dire, bah, on est plusieurs, on réunit plusieurs compétences, etc. Mais après, on avait aussi les collectifs de freelance, par exemple, qui sont aussi des choses très tendances. Ils sont aussi sur des modes de un mode de travail, par exemple, de se réunir à plusieurs pour arriver sur des appels d'offres plus importants, sur des dossiers plus importants, etc. Donc, il y a tout un tas de fonctionnements qui existent, hein, qui finalement viennent se greffer aussi sur la manière d'exercer, par exemple, hein, ces activités-là. J'aurais pu rajouter aussi dans le business model de l'affiliation, par exemple, hein, c'est de dire j'aide quelqu'un d'autre à vendre des produits. Alors avant, on avait ce modèle de l'apporteur d'affaires, hein, c'est je t'apporte un contrat, tu me donnes de l'argent en échange, que moi j'ai utilisé, hein, on m'avait proposé d'être apporteur d'affaires pour certaines personnes, avec une commission et tout. Il y a des activités qui marchent très bien, hein, je pense à l'immobilier, etc., il y a des apporteurs d'affaires, il y a plein de domaines dans le business qui y a des apporteurs d'affaires qui existent. Et on a aussi finalement le modèle affiliation. Alors le truc, il y a l'affiliation type Amazon où on touche genre 5% sur la vente d'un livre ou de matériel. Alors attention, hein, là encore c'est pareil, hein, il y a des gens qui arrivent à vivre de l'affiliation. Il n'y a pas que cette affiliation Amazon, etc. Il peut y avoir de l'affiliation à des produits type des services en ligne, du SaaS, etc. Par exemple, moi j'ai de l'affiliation sur mes espèces de formation, des choses comme ça. Donc tout ça, en fait, ce sont des modèles qui existent, hein, et il y en a d'autres qui vont être inventés, qui vont se développer, qui vont bouger. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que aucun de ces business models est totalement passif. C'est-à-dire que on a beaucoup le mythe du revenu passif. C'est quelque chose qui est beaucoup vendu et qui nous intéresse particulièrement quand on est dans cette situation comme moi je l'ai été pendant un bon bout de temps et encore maintenant, hein, par exemple, parce que le choix du business model va venir sur des questions de du temps que je veux passer, comment je veux travailler, etc. Et on se dit que l'idéal serait d'avoir du revenu passif, c'est-à-dire que je crée un truc et il se vend tout seul. J'ai encore vu hier, et puis j'ai même téléchargé lead magnet, etc., j'ai laissé mon mail à une personne qui fait des formations, du coaching spécifique pour dire bah moi j'ai des revenus passifs. Qui le dit très clairement comme ça, qui dit bah voilà, le matin je me lève, quand je suis en vacances, etc., je vois, il y a eu un virement, tous les 2-3 jours, j'ai un virement, 2 200 euros. Etc. Alors que je n'ai pas travaillé, etc. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais le revenu passif n'existe pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que, oui, on a l'impression que c'est du passif, mais le passif, en fait, a demandé toujours un gros travail, souvent un très gros travail en amont, et il demande toujours un entretien. C'est-à-dire que une personne qui me dit c'est du revenu passif, mais qui a passé son temps, finalement, dans sa journée, qui a créé, par exemple, 3 posts Instagram, parce qu'elle a 3 comptes Instagram, je peux pas dire que ce soit du 100% passif quand même, parce que il faut faire rentrer des gens. Alors, comment ça se passe souvent? C'est que, par exemple, dans ce cas-là, il y a un tunnel de vente qui a été créé. Dans le tunnel de vente, il y a, je laisse mon mail, j'ai un petit produit gratuit, ensuite j'ai une série de mails avec des produits en vente, et puis on fait monter les gens en gamme, etc., pour les amener sur des formations, par exemple, plus chères. Et donc, on peut se dire, bah oui, ça tourne tout seul pendant que je ne fais rien. Sauf que, bien entendu, il a fallu créer tout ça, il a fallu tester pour que tout ça, ça fonctionne ou pas. Et par exemple, le tunnel de vente, il y en a certains, je vois par exemple sur YouTube, des personnes qui disent, ouais, il faut arrêter les sites internet, il faut arrêter ça, il faut faire du tunnel de vente, il faut faire du tunnel de vente, il faut faire du tunnel de vente. Grosse tendance, le tunnel de vente. Sauf que le problème d'un tunnel de vente, c'est qu'on peut y passer énormément de temps à créer un tunnel, et puis c'est pas parce qu'on fait un tunnel que ça a marché systématiquement. C'est-à-dire que le tunnel, il y a une question, c'est comment faire rentrer les gens dans le tunnel, qu'est-ce qu'on leur propose, et comment finalement, quand ils sont dans le tunnel, on arrive à leur vendre des produits. Moi, j'ai des tunnels, où, c'est d'ailleurs une de mes problématiques actuelles qui me fait beaucoup réfléchir, j'ai un tunnel, par exemple, où les gens rentrent, mais en fait, ils en sortent sans avoir acheté quelque chose. Bon, ça veut dire que là, j'ai un problème dans mon tunnel, en fait, hein, très clairement. Il y a un truc qui n'est pas clair, il y a un élément qui n'est pas clair. Quand je regarde mes mails, les statistiques de certains mails et de séquences de mails, quand elle est à 0%, ça veut dire que j'ai bien fait rentrer les gens dans le tunnel, mais qu'en fait, ils n'en sortent pas en ayant acheté les produits. Pourquoi? Ça, c'est la grande question, et c'est des trucs qui demandent du travail. Donc, ce n'est pas du passif, en fait. Alors, une fois que le tunnel sera, on va dire, réparé, que j'aurai trouvé les fuites, peut-être que ça deviendra plus passif, mais encore est-il qu'il faut quand même faire rentrer les gens dans le tunnel au départ. Si on fait rentrer les gens dans le tunnel au départ en créant du contenu, en créant des podcasts, des choses comme ça, on n'est pas dans du 100% passif, hein. Voilà, très clairement. Donc, le passif, pour moi, n'existe pas. J'ai longtemps cru hein, qu'il existait, j'ai longtemps espéré sur le revenu passif. Je me rappelle, et je vais vous donner une anecdote, quand j'ai quitté mon dernier emploi salarié, j'ai mangé au restaurant un jour avec une collègue, et je lui ai dit, moi je vais faire freelance, ou je vais faire différents trucs, etc., j'ai envisagé certaines pistes, et j'ai besoin de temps pour gagner. Mon tarif horaire, en fait, il faudrait que je travaille à peu près 4 jours par mois pour arriver à... Si ces 4 jours par mois sont remplis, à mon tarif horaire, en fait, j'ai mon salaire actuel. C'était le calcul que j'avais fait. Et en disant, bah, il y aura aussi ces trucs-là, il y aura aussi là-dessus, ou j'ai des trucs comme ça. 10 ans plus tard, ou on est 12 ans plus tard, je n'ai toujours pas eu cet équilibre-là que je lui ai vendu, en disant les 4 jours et le revenu qui est en face ne sont toujours pas alignés ensemble, j'ai envie de dire. Bien sûr, il y a des entrepreneurs, on voit, qui travaillent, qui vont travailler 4 heures, 5 heures par jour. Il y en a d'autres qui vont travailler 10 heures. J'ai entendu dire une freelance qui travaillait 12 heures par jour sans prendre de vacances pendant 2 ans. Et donc, il y a tout un tas de réalités hein, derrière tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut percevoir, etc. Mais la vraie réalité, souvent, c'est que ça n'existe pas, le revenu passif, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment très rare d'avoir du passif. Et la plupart des gens qui sont vraiment dans du passif, en fait, ils ont quelqu'un d'autre qui fait le boulot à leur place parce qu'ils sous-traitent une partie de leur activité. Voilà, de ce qui les ennuie, ce qu'ils aiment pas, etc. Donc, finalement, maintenant qu'on sait qu'il y a plein de business models, qu'il y a des modes, qu'il y a des objets brillants et que c'est jamais du passif et qu'il y a toujours du travail à faire, et bien finalement, Comment on fait pour choisir? Eh ben, le choix, en fait, pour moi, il vient d'abord de le mode de vie dont on rêve. Et bien sûr, il y a le mode d'envie dans ton rêve qu'on voudrait avoir. Vous avez, je sais pas, entre 40, 50 ans, vous en avez marre du salariat, vous voulez quitter votre boîte dans laquelle vous êtes salarié actuellement, vous voulez vous lancer. Votre mode de vie, peut-être, vous l'avez imaginé, ça serait de dire je vais déménager, je voudrais avoir du temps pour mes enfants, je voudrais avoir du temps pour faire du sport, ou pour faire ma passion, je sais pas quoi, je voudrais avoir habité à la campagne au bord de la mer. Enfin, voilà, ça c'est ce mode de vie que vous rêvez. Hein. La question c'est finalement comment vous pouvez l'avoir et comment vous pouvez l'atteindre ce mode de vie. Alors au départ, ce mode de vie-là, on peut en construire une partie, mais il y a la question de le financer, donc du business model, passera toujours par des étapes où il y aura une grosse partie où on sera très éloigné de ce mode de vie rêvé. Tout simplement parce qu'il y a aussi, dans le rêve, il y a aussi le confort. Il y a la notion de ça va être confortable, je vais pouvoir faire ça, je m'imagine ça, etc. Et sauf que le passage d'une situation à l'autre est toujours très inconfortable. Bien entendu qu'on a des matelas. Matelas, Pôle emploi, tous ces matelas qu'on peut avoir, primes de départ, quand on a négocié son départ, la revente de ses actions quand on était actionnaire d'une société, etc. Tout ça, on peut l'avoir. Bien sûr que ça fait des matelas. Moi, je sais par exemple que le matelas Pôle emploi, très pratique, mais attention, il passe très vite. Hein, en fait, on dit oui, j'ai un petit peu de temps, sauf que le un petit peu de temps, et là on en revient après un petit peu au syndrome, c'est pas le syndrome, c'est la loi de Parkinson, hein, c'est-à-dire que on prend toujours le temps qu'on a au maximum, hein. Si j'ai 2 jours pour faire un truc, je vais prendre 2 jours, si j'ai qu'une heure, je vais le faire en 1 heure, mais si j'ai 2 jours, je vais me prendre 2 jours. Et si on se dit qu'on a 2 ans devant nous d'indemnité, il se peut que finalement on construise la mode de vie rêvée en fait sur des revenus qu'on crée pas vraiment mais qui viennent par exemple des indemnités. Et donc quand on arrive à la fin des indemnités, si on n'a pas créé le business model, si on n'a pas le modèle qui permet de financer tout ça, on se retrouve en fait dans un croisement, on dit bah non, ça passe pas, j'arrive pas à vivre comme je veux. Pourtant, j'avais bien le truc rêvé, mais en fait, dans le mode de vie rêvé, il manquait la source de financement. Donc faut bien se méfier de ce truc-là en fait. C'est de se dire que le mode de vie rêvé, il est pas, on va pas l'obtenir non plus en quelques jours. Contrairement à ce que vont dire certains vendeurs de rêves qui disent vous lancez maintenant dans 3 mois, vous avez 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 10 000 euros de salaire. J'en ai vu certains. Avant d'avoir ça, en fait, il y a toujours une grosse période de transition qui est compliquée, qui peut être une transition longue et qui peut aussi passer par de nombreuses gamelles et beaucoup d'échecs. Et ça, c'est pas dit assez souvent ce truc-là. Donc, attention. Là-dessus, voilà, vous imaginez votre mode de vie rêvé et vous lui mettez une date, un projet potentiel en disant bah, j'aimerais bien avoir ça, etc. Mais ne mettez pas en objectif, en fait, mettez-le plutôt comme étant en fait le chemin vers lequel vous allez aller. Au milieu, et vous allez essayer de paver en fait le chemin en disant bah, pour arriver vers ça, il faut que je mette certains garde-fous, que je fasse certaines choses et que je vais faire certaines activités et je vais probablement tâtonner en fait. Il y a des choses par exemple qui ne seront pas adaptées, alors qui vont pas être adaptées par exemple parce qu'elles peuvent vous demander trop de temps. C'est par exemple, je parlais de business du freelancing. Freelance, c'est je vends une compétence contre, finalement je fais une prestation contre une somme d'argent. Beaucoup dans le freelancing, en fait il y a beaucoup quelque chose qui est très répandu, c'est la vente à l'heure. Ou alors c'est le fameux taux journalier, le TJM, etc. Et donc c'est finalement de dire, ben, mon heure de travail vaut tant. Voilà, mon heure de travail vaut tant. Ou dans le freelancing, on a aussi, par exemple, dans la rédaction de contenu, on a aussi cet aspect de dire, le mot que j'écris vaut tant. Donc si vous êtes payé à 4 centimes du mot, ou si vous êtes payé à 40 centimes du mot, bien entendu, il y a une grosse différence. Mais les freelances, c'est pareil. Il y a des freelances qui vont dire, je suis payé à 40 euros de l'heure pour faire ça, d'autres qui vont me payer à 100 euros, etc. Et puis il y a des coachs aussi, par exemple, l'heure de coaching pour certains cas va être vendue à 50 euros, d'autres 70, et puis vous avez trouvé des gens à 450 euros, et puis vous avez trouvé des gens, des stars du domaine, qui ont vendu de l'heure de coaching à 1000 euros, 10 000 euros, des choses comme ça. Donc, le temps, en fait, c'est bien sûr, j'entends plein de gens qui disent, faut jamais vendre son temps. Bon, sauf que si vous vendez finalement une heure de coaching à 500 euros, bah finalement, ça vaut le coup de vendre votre heure, en fait, je veux dire, là-dedans. Par contre, il y a un calcul à faire, c'est que si vous vendez une heure à 40 euros et que vous voulez gagner 4000 euros, ben, vous comprenez bien qu'à un moment donné, il va falloir vendre beaucoup d'heures. Et donc, le temps n'est pas extensible. Et ça, c'est un des clés du truc, c'est que c'est pas extensible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de coachs qui finalement finissent par construire des équipes et finissent aussi par grossir en ayant des équipes de coachs avec eux et sur lesquelles, en fait, ils vont leur faire des coachings. Ou alors, ils ont des ventes, des équipes de vente. Et eux, finalement, ils se regardent la partie coaching et puis c'est les équipes de vente qui vont finalement amener toute l'après-vente, etc. Donc tous ces modèles-là existent et souvent en fait c'est pour gagner du temps en fait et pour que le créateur, le coach en l'occurrence, mais ça peut être dans d'autres domaines, se concentre finalement sur ce qui va lui rapporter le plus d'argent et souvent lui prendre le moins de temps, c'est-à-dire d'avoir du temps, de garder du temps par à côté. Donc ce critère de temps, il est vraiment très important parce que il y a des activités où qui sont très compliquées à rentabiliser, c'est-à-dire que si vous faites si vous vendez de l'heure à 50 euros ou à 60 euros, eh ben, il va falloir faire beaucoup d'heures pour arriver à avoir le mode de vie rêvé. Surtout si votre mode de vie, vous avez envie d'être confortablement, je sais pas s'il faut par exemple acheter du matériel, une maison ou je ne sais pas quoi, et si vous faites un peu le calcul, peut-être vous allez vous rendre compte que vendre du temps, il va peut-être falloir le vendre beaucoup plus cher que ce que vous voulez. Peut-être rajouter un zéro sur certaines prestations aussi, c'est pas du tout impossible. Et là, elle se pose la question de savoir comment le business model que vous allez choisir va vous allez pouvoir packager l'offre, le produit que vous allez faire, l'offre, etc. J'en avais parlé la semaine dernière. Il y a un autre élément qui peut jouer aussi, c'est le caractère. Notre caractère. Notre caractère, en fait, va beaucoup jouer. Alors, dans le caractère, en fait, c'est est-ce qu'on se sent meneur d'homme, meneur de femme, est-ce qu'on se sent plutôt introverti dans son monde, etc., qu'on n'a pas trop envie d'avoir de contact, est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de contact, est-ce qu'on a envie de passer beaucoup de temps chez soi ou beaucoup de temps en dehors, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu cette logique-là. Et puis, il y a des personnes, par exemple, qui détestent la création de contenu en elles-mêmes. Bon, normalement, si vous êtes là, c'est pas trop votre cas, ou en tout cas, qui le trouvent pas comme étant prioritaire. Il y a ce que j'appelle un peu les artistes et un peu les entrepreneurs. On a ces deux profils-là. Normalement, dans notre profil, il faudrait être artiste-entrepreneur, j'ai envie de dire. Mais si on est trop artiste, j'en avais parlé, trop créateur, et qu'on oublie d'être entrepreneur, on se retrouve à créer des choses sans gagner d'argent. Si on est 100% entrepreneur, mais qu'on ne crée pas de contenu à côté pour faire entrer des gens dans la machine, bah quelque part, il va falloir compenser par autre chose. Ce qui peut être par la publicité. Hein. Par exemple, il y a des gens, je connais des gens, j'ai vu dans leur business model, ne créent quasiment pas de contenu en ligne, très peu de contenu en ligne, en tout cas, ils sont pas sur les réseaux sociaux en permanence, etc. Mais par contre, font de la publicité pour faire rentrer les gens dans le tunnel. Voilà, ils font de la publicité pour faire rentrer des gens dans le tunnel, parce que c'est leur mode de vie, parce que c'est le mode de vie qu'ils ont envie d'avoir, parce que c'est aussi leur caractère, en fait, qui les pousse vers ça, se dire, je me préserve ma santé mentale en ne faisant pas de contenu tous les jours, etc. et tout. Moi, c'est pas mon cas. Moi, par exemple, j'adore créer du contenu. Moi, je crée un réel tous les jours, je ne calcule plus le nombre d'épisodes de podcast par semaine, etc. Je fais du podcast quasiment tous les jours. C'est ce qui me met en forme, c'est ce qui me met en joie, etc. et tout. J'ai longtemps cherché, hein, je vais en parler après, mais j'ai longtemps cherché un petit peu quel était mon ikigai et tout. Et je sais que dans mon ikigai, il y a notamment le côté discussion, ce qui paraît totalement contraire à mon caractère qui est plutôt un introverti, être dans ma caverne, etc. Mais c'est juste qu'il y a des temps, en fait, hein, où moi, dans mon caractère, par exemple, j'ai envie d'avoir du temps. Déjà, ça, c'est un truc. J'ai envie d'avoir des moments seuls. J'ai envie d'avoir des moments où je vais apprendre, de l'apprentissage pour moi-même. Et donc, c'est pas être en permanence avec d'autres personnes et tout. Et d'avoir du temps pour faire du sport. Et puis, j'ai envie aussi de partager certaines choses. Et je sais que dans le partage, j'en avais parlé dans le journal de lundi, il y a des moyens de partager sur lesquels je suis plus à l'aise que d'autres. Il y a au bout d'un moment, le partage en groupe, par exemple, devient compliqué à gérer pour moi. Ou en tout cas, ce n'est pas le truc que je vais préférer faire. Je vais préférer avoir de l'individuel, je vais préférer avoir de la formation en ligne, des choses comme ça. Ça vient de mon mode de fonctionnement. Et donc, il y a certains business models dans ce mode de fonctionnement qui ne sont pas du tout que je peux enlever directement. Et puis, il y a les envies qu'on a aussi, bien sûr. Les envies qu'on a, ça revient un petit peu au mode de vie rêvé, c'est-à-dire que on a envie ou peut-être pas envie. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir aussi une liste de « je n'ai pas envie de faire ça ». Par exemple, je n'ai pas envie de faire des sites internet pour des clients. Ça peut être, par exemple, un choix. Vous avez dit, bah tiens, j'ai fait des sites pendant X temps, j'ai cette compétence-là et tout, mais je n'ai pas envie de faire des sites. Ou je n'ai pas envie, par exemple, moi, ce qui peut être le cas souvent, en fait, de trucs, c'est je n'ai pas envie de gérer des réseaux sociaux pour d'autres personnes. Je l'ai fait, hein. J'étais community manager, je l'ai fait, j'ai fait énormément de formations en réseaux sociaux et tout, c'était ma spécialisation, j'ai fait des conférences dans le domaine et tout. Pour autant, si vous me demandez d'être community manager pour vous, je ne vous dirai pas oui, je vous dirai même non. Je peux vous aider en fait à gérer, à réfléchir, à planifier, à créer du contenu, etc. Mais par contre, c'est vous qui allez gérer vos réseaux sociaux ou alors vous trouvez quelqu'un d'autre pour le faire. Mais il y a des community managers, il y a des gens qui adorent être community manager. Et ben moi, c'est pas mon envie. Je l'ai été, mais ça ne fait pas partie de mes envies. Faire des sites internet, oui, je l'ai gardé en activité pour certaines personnes, etc. Parce que je sais que je suis très efficace dans certains domaines, parce que je sais que je peux aller très vite, parce que je sais que il y a des outils que je maîtrise, parce que ça permet aussi de faire, d'aller sur certains points. Mais ça sera pas pour tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pas affiché sur mon site en gros comme prestation création de site internet. Contrairement à une époque où c'était marqué très clairement. J'ai même commencé par ça en fait. Hein, voilà. Donc ça, vraiment, il y a des envies. On peut dire, bah, j'ai envie de travailler dans tel domaine. Et puis on pourrait dire aussi, il y a des envies de travailler avec certaines personnes, d'apporter certaines contributions au monde, j'ai envie de dire. La contribution, c'est de dire, bah, j'ai plutôt envie de laisser une trace avec des documents que les gens pourront consulter pendant longtemps, etc. Donc aller plutôt sur de la formation téléchargeable ou en ligne, des produits, des choses comme ça. J'ai envie aussi de ne pas impacter le monde avec du transport de produits physiques, par exemple. Donc ça va enlever le e-commerce, le dropshipping. On peut avoir plein de choses comme ça, hein, où j'ai envie de travailler dans un domaine particulier, plutôt dans le domaine de l'écologie, ou plutôt dans le domaine du sport, ou plutôt dans le domaine de la finance, ou je sais pas quoi. Plein de choses. Donc, vraiment, là-dedans, on faut vraiment cerner, en fait, qui vous êtes, quels sont le mode de vie dont vous rêvez, vos envies, votre caractère, le temps dont vous voulez disposer, et finalement, dire, bah, comment l'un va coller à l'autre. Quand vous êtes en lancement d'activité, en partie side hustle, si vous êtes salarié tout de suite, et que vous avez envie d'aller sur une activité de bouger, en tout cas de créer une activité secondaire qui peut vous rapporter un petit bonus de salaire en attendant peut-être d'en vivre un jour, le critère temps, il va être extrêmement important. Surtout si vous avez aussi des enfants, ou si vous avez des personnes à charge, si vous avez envie de faire un peu de sport, voir des amis, besoin d'une vie sociale, caractère, hein, vie sociale, j'ai besoin d'avoir une vie sociale, je ne veux pas m'enfermer, me couper de mes amis, etc. C'est une discussion que j'ai souvent en coaching, cette histoire-là. Finalement, le critère temps devient souvent central dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez très bien dire « je veux passer par le business model du consulting, je n'ai que ou consulting ou coaching, je n'ai que 10 heures dans ma semaine, parce que le temps, et ce 10 heures par exemple, c'est le samedi matin, c'est 3 soirs par semaine où je vais faire 2 heures par exemple par semaine. Et ce n'est que ce temps-là, je n'ai que ce temps-là pour faire des consultations en ligne, par exemple. Vous pourriez très bien, des consultations, qu'elles soient en ligne ou pas. Vous pourriez très bien définir ce truc-là. À partir de là, si vous vouliez vivre comme ça, dégager une certaine somme, il faudrait vous dire bah, finalement, ma consultation, il faut que je la vende à, 100 euros. Par exemple, 100 euros, vous vendez 10 heures, ça fait 1000 euros. Bon, si vous faites ça par semaine fois 4, bah oui, peut-être vous pouvez y arriver. À condition de remplir à 100%, c'était mon calcul de départ quand je me suis lancé en indépendant. Et moi, j'étais parti dans le truc, oui, je vais forcément arriver à remplir, à être à 100%. Et bien sûr, il y a toujours des gens qui rentrent, des gens qui sortent. J'ai toujours trouvé aussi un constat que je me suis toujours fait. C'est que ce constat, c'est que souvent, quand il y a un client qui rentre, il y en a un qui est pas loin de partir aussi à un moment donné. Est-ce que c'est parce que sans faire attention, on est dans des cycles de, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, il y a des gens qui finissent par partir, et puis on essaie d'en faire rentrer d'autres, et puis on est confortable en se disant, bah maintenant, j'ai 2-3 clients, je suis à bon équilibre, etc. Et puis en fait, le client, il a moins besoin de nos services, il a des changements dans sa vie, dans son business, dans ce qu'il fait, etc. Et donc il y en a un qui va partir, et puis on se retrouve finalement à dire, ah, il faut que j'aille en chercher un autre. Donc il y a constamment aussi ces questions-là qui peuvent être de comment est-ce qu'on remplit finalement. Parce qu'on a ce calcul rêvé en disant, bah oui, si je fais 10 heures par semaine à 100 euros, bah, ça fait 1000, fois 4, ça fait 4000, j'enlève les charges, etc. Ça semble confortable, et à côté de ça, je peux faire plein de trucs. Oui, c'est le théorique si je remplis à 100%. si je remplis à 100%. Mais si je remplis pas à 100%, ça ne marche pas. Le modèle ne marche pas. Donc, c'est pour ça aussi, je dis qu'il y a le business model sur le papier, et puis il y a comment, en fait, on va pouvoir arriver à le mettre en œuvre. Et c'est ça, je voulais vous dire aussi, c'est que là-dessus, en fait, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est d'essayer, en fait. C'est de savoir si... il y a des choses, vous pouvez pas savoir, d'ailleurs, si ça marche ou pas, pour vous. Parce que, est-ce que c'est vraiment adapté à ce que vous voulez faire, à qui vous êtes? Peut-être, sur le papier, le coaching peut être quelque chose qui peut vous plaire. Et puis, quand vous vous retrouvez avec des personnes en face, quand vous voyez le temps que ça vous prend, que, peut-être l'énergie que ça vous prend, etc., vous allez vous dire, le coaching, en fait, c'est pas pour moi. J'aime bien être coaché, j'aime bien être accompagné, mais le faire moi pour d'autres personnes, ou alors je vais le faire qu'à un volume très limité. Ce que j'avais expliqué l'autre jour sur le coaching de groupe, par exemple, où je me rends compte que le coaching de groupe, j'ai avoir du mal à vraiment apporter ma vraie plus-value. Le coaching en individuel, oui, mais le coaching en individuel, si je ne faisais ça que de ma journée, je serais totalement nul. Ça serait impossible. Si je dépasse 2 sessions de coaching par jour, c'est sûr que je suis totalement rincé. Et si je faisais une séance de coaching plus un enregistrement de podcast dans la journée, je suis totalement rincé aussi. C'est pour ça que dans mon emploi du temps, par exemple, je n'ai qu'une séance de coaching par jour réservable, en fait. Donc ça veut dire que je limite beaucoup le nombre de clients potentiels. Et que, par exemple, entre du coaching préparation mentale et du coaching podcasting, les prix aussi ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'il n'y a pas les mêmes, j'ai pas la même expérience, etc., et qu'il y a un équilibre qui se fait aussi. Donc il y a tout un tas de calculs qui se font comme ça. Revenons d'ailleurs sur, je parle du coaching, parce que dans ma liste, j'ai mis un truc aussi qui est important, c'est qu'il y a souvent, il y a toujours des situations qui peuvent être temporaires, ou en tout cas que vous souhaitez être temporaires. Par exemple, pourriez-vous dire, pour me lancer, le plus simple, j'ai des gens qui ont besoin de mes services dans mon domaine, ils m'ont proposé de dire bah tiens, tu connais pas quelqu'un qui fait ça, et puis je dis moi je pourrais le faire, et vous pourriez avoir une petite activité qui commence comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout le reste de votre vie. En fait, ça peut être un point de démarrage. Voilà, ça peut être un point de démarrage. Je trouve qu'il y a 2 points de démarrage qui sont intéressants, qui peut être que vous pouvez envisager, même si c'est peut-être pas ce qui vous fait le plus envie, peut-être pas ce qui va vous rendre le plus vous rapprocher totalement de votre mode de vie rêvé, mais qui peuvent être des vrais accélérateurs. Et je pense notamment, c'est la sous-traitance et le coaching, ou coaching consulting. Pourquoi ? Sous-traitance, ça pourrait être de dire, je vais me rapprocher de gens qui font la même chose que ce que j'ai envie de faire, ou qui sont à peu près dans le même domaine, et je vais leur proposer mes services dans le but, en fait, de travailler avec eux, et donc déjà d'être dans leur réseau, d'essayer de voir comment être dans leur réseau, d'être en contact avec eux, d'apprendre de ce qu'ils font, de voir un petit peu la mécanique qu'il peut y avoir en dessous, etc. Et ça peut être un truc qui est vraiment très intéressant. On le voit d'ailleurs, c'était quelque chose qui est très classique, par exemple, dans les boîtes de consulting à une époque, moi, de mes camarades d'école de commerce, et puis je l'ai vu aussi dans ma famille, le schéma des écoles de commerce, c'était beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui faisaient de la gestion, des choses comme ça, qui allaient dans des cabinets de consulting, des gros trucs, vous savez, les Andersen et compagnie, les grosses boîtes comme ça, qui pendant quelques années travaillaient pour plein de boîtes différentes, avaient plein de dossiers, plein d'analyses, ils faisaient plein de choses comme ça, donc ils avaient un gros apprentissage avec d'autres personnes qui faisaient ça, avec les anciens de la boîte, avec les associés et tout. Et dont le but, en fait, c'était un passage temporaire pour se faire un réseau, rencontrer des gens, apprendre beaucoup en compétences, et puis ensuite partir vers des entreprises pour être, par exemple, directeur général, directeur financier, etc. Mais de rester, en fait, de quitter la partie consulting pour aller dans le type salariat. Et d'autres en disant, ils pourraient faire consultant indépendant, ne plus être dans ces structures-là et puis être en plus en indépendant. Mais qui considéraient qu'en fait, pendant quelques années, il y avait une zone d'apprentissage qui était au contact, en fait, d'autres consultants dans ce structure de consulting qui était bien établi, qu'il y a des processus très clairs, etc. Et donc, ils apprenaient les processus, parce que c'est des processus qu'on apprend très peu, finalement, dans les écoles de commerce. Et donc, ils apprenaient les processus, les méthodes, les relations, comment ça se passait, les trucs, ils avaient de l'appui, etc. Et donc, un gros apprentissage, j'ai envie de dire, de la post-formation, un petit peu comme ça. Et à partir de là, après, ils disaient, je vais aller travailler soit dans une autre entreprise, plus classique, j'ai envie de dire, qui peut des fois d'ailleurs être un de leurs clients, et puis il dit je travaillais en consulting par exemple pour eux, et puis maintenant ils cherchaient un salarié pour faire ça, et bien ils me proposent le truc et tout, donc ils passaient ça. Moi je l'ai vu dans mon entourage, des gens qui ont fait ça. Et donc vous pourriez avoir aussi ce système là en vous disant finalement je pourrais travailler pour des gens qui sont dans le même domaine que moi, qui ont besoin de sous-traiter certaines de leurs activités. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis diététicien. Je veux m'installer comme diététicien, mais j'ai fait la formation, je suis diplômé, etc. Mais j'ai pas tous les outils, j'ai pas tout ça et tout. Mais par contre, j'ai des compétences. Par exemple, en rédaction de contenu, bah, je pourrais sous-traiter écrire des articles pour d'autres diététiciens qui aiment pas trop écrire. Et puis, en même temps, travailler avec eux. Ils me donneraient leurs conseils, ils me diraient qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans les articles. Ça me permettrait de continuer à apprendre un petit peu sur les ficelles par rapport à leur expérience, par rapport à ce qu'ils voient. Peut-être qu'ils pourraient mettre en relation dans leur réseau. Peut-être qu'en fait, ils pourraient finir par me dire, bah tiens, moi j'ai trop de clients dans tel domaine, ou je connais quelqu'un qui fait ça, et puis pour passer des gens, tout comme ça. Ça peut arriver. On voit souvent d'ailleurs, hein, c'est souvent des choses que j'ai pu voir, vous avez des coachs qui se lancent, qui semblent avoir beaucoup de succès d'un coup, mais qui en fait, par exemple, étaient des coachs, ils sous-traitaient le coaching pour d'autres personnes, par exemple. Et donc en fait, ils ont beaucoup appris auprès d'un premier coach, et puis au bout d'un moment, ils décident de devenir coach carrément et se montrer. Et ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Donc ça peut être un aspect qui peut exister, qui peut être un vrai accélérateur. On a dans des créateurs, on a beaucoup de certains créateurs qu'on voit qui sont un peu visibles, etc., qui ont finalement été pendant un certain temps en sous-traitance, en sous-marin, j'ai envie de dire, d'autres qui étaient de créateurs qui étaient plus avancés et qui à un moment donné passe en fait le cap en disant bah maintenant je vais faire pour moi avec tout ce que j'ai appris avec le réseau et tout, et qui parfois sont même d'ailleurs aidés par la personne pour laquelle ils travaillaient, qui peut leur dire bah tiens je vais t'aider avec mon réseau, ou alors il y a des trucs de passation d'affaires, enfin il peut y avoir tout un tas de choses comme ça, d'entraide, etc., qui peuvent exister. Ça, c'est un premier truc. Et puis il y a le deuxième truc, c'est le coaching. Et ça, j'en ai parlé souvent. Moi, j'étais pas super favorable au départ au coaching, etc. et tout. Parce qu'il y avait cette idée, je veux pas vendre mon temps contre de l'argent. En fait, je voulais sortir de vendre mon temps contre de l'argent. Et donc, j'étais pas super favorable à ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même que le coaching, le consulting, etc., le fait de pouvoir discuter avec ma cible, hein, d'audience, m'apportait énormément. Et notamment, elle m'apportait une meilleure connaissance, en fait, de leurs problématiques, de leurs besoins. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de les deviner, au lieu d'essayer de lancer des produits et de deviner quelles étaient les problématiques, et ben, en fait, les personnes que j'ai en coaching me le disent directement. Et donc, à force d'avoir des personnes en coaching qui me ramènent toujours les mêmes questions, les mêmes types de questions et tout, il y a toujours, en fait, à un moment donné, ce truc de dire, si j'ai 5 personnes en coaching qui ont toutes le même problème, etc., est-ce que je dois continuer à le résoudre en coaching? Oui, peut-être, mais est-ce que je peux pas le résoudre aussi, par exemple, par un livre, une formation, des choses comme ça? Et donc, sur la connaissance client, le coaching peut être un véritable accélérateur. Et quelque chose en plus qui a un gros avantage, c'est qu'il ne vous demande pas une préparation énorme. Le consulting sur vos domaines que vous connaissez bien, il ne va pas vous demander de la préparation énorme. Et il ne va pas vous demander de passer des comme une formation en ligne où vous avez passé beaucoup de temps à imaginer la formation en ligne, etc. Là, vous avez juste en fait vous faire connaître, dire à des personnes que vous faites ça, que vous êtes là-dedans, etc. Ce qui peut être d'ailleurs par au départ un réseau de contacts, un réseau d'amis sur lequel vous allez vous entraîner. Vous allez faire dire, bah tiens, je vous propose ça. Pour l'instant, je me lance, mais en échange de vos retours, de commentaires clients, etc., je voudrais bien faire ça et tout. Donc vous pouvez avoir ce truc-là et en fait le faire peut-être pendant quelques mois au départ pour emmagasiner en fait tout un tas d'informations, que les discussions, de ce qu'on vous dire les gens, comment ça se passe, etc. Moi, il y a des problématiques, par exemple, où je vois sur 2-3 clients, hein, j'ai même pas besoin d'en avoir 10, hein, sur 2-3 clients sur le même domaine, où la problématique revient à peu près toujours la même. Hein. C'est 2-3 trucs en disant, bah tiens, il y a ce point-là, là précis, là, ou là, bah manifestement, il y a quand même, si c'est 2, 3, 4 personnes qui l'ont, probablement il y a d'autres personnes qui l'ont, après ça se vérifie, mais en tout cas, Ça peut être un vrai accélérateur, vraiment je le dis, et en tout cas un élément qui permet de mieux connaître, de vraiment mieux connaître son marché. Peut-être après, c'est pas le truc idéal que vous avez envie de faire, vous n'avez peut-être pas envie de le faire longtemps, parce que ça prend du temps, parce que ça prend l'énergie, parce que souvent en fait aussi, les heures de coaching par exemple, peuvent déborder sur du temps de famille, par exemple, dire bah oui, mes coachés sont disponibles par exemple, le soir entre 19h et 21h, ou sont disponibles le samedi matin et le samedi toute la journée. C'est du temps où je voulais plutôt faire du sport ou être en famille ou des choses comme ça. Donc c'est peut-être pas idéal, mais en tout cas ça peut être une première étape. Ça peut être une première étape. Et puis là encore, hein, c'est une question aussi de combien vous tarifez. Si vous tarifez votre coaching à 40€, pour vivre de ça, il faudra en faire tellement que ça sera impossible. Si vous le tarifez votre séance coaching, etc., vous dites moi j'ai de l'expérience, etc., c'est 200€. L'heure peut être assez intéressante, hein, peut être assez intéressante. Et encore que sur le coaching, moi je suis pas pour vendre à l'heure, mais ça c'est encore autre chose, on en parlera dans d'autres épisodes. Donc vous avez compris un peu l'histoire du business model, et pour voir en fait que, et on peut voir plein de trucs qui tournent autour de nous, ce choix-là en fait n'est pas si simple que ça, mais à un moment donné il va falloir le faire. Pour terminer là-dessus, je voulais vous donner mon parcours en fait, un peu. Vous allez comprendre un petit peu tout ce que j'ai, par quoi je suis passé. Et encore, je me rends compte, j'ai oublié un truc, alors je vais le rajouter dans ma petite liste en même temps que je vous parle. Vous allez comprendre un petit peu l'histoire. Quand je me suis lancé, donc, il y a 12 ans maintenant, 12-13 ans, en tant qu'indépendant, donc quand j'ai quitté le salariat, je me suis mis en auto-entrepreneur. Et la première étape que j'ai faite, je me suis dit, bah moi, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai travaillé en agence web pendant 8-9 ans presque. À l'époque, moi j'ai commencé à créer des sites en 95-96, j'étais ingénieur entreprise en école de commerce, j'ai fait des sites pour des clients, on avait monté une petite agence web dans la junior entreprise. J'ai travaillé dans deux agences web, j'ai passé 7 ans dans l'une, donc j'ai une grosse expérience en création de sites, je crée mes sites en dehors, etc. Et je commençais aussi aux réseaux sociaux et tout à commencer à faire ça. Bon. Community management d'ailleurs, quand je travaillais en collectivité locale, j'étais rentré comme webmaster, mais finalement je faisais beaucoup de community management, au point même d'avoir lancé la première page Facebook d'une collectivité locale en France carrément. Donc pour dire que c'était vraiment ça le cœur, mais au début le métier community manager n'existait pas, le webmaster devenait souvent community manager. Donc quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, en fait je me suis mis en auto-entrepreneur. Le premier jour, je suis allé, on m'a dit, bah tiens, j'ai un client potentiel pour toi. Je suis allé le voir, je t'appelle à la porte, on a discuté, et un mois après, j'ai mon premier client. Et c'est un client que j'ai gardé 2 ans en fait, hein, sur gestion de son blog, écriture, réseaux sociaux, accompagnement, stratégie, etc. Donc j'ai commencé comme freelance en fait. Et donc, ça m'a mis sur la voie du freelancing, en fait, un petit peu, de commencer à faire un peu de freelancing comme ça. J'ai fait aussi de la formation, parce que quasiment dans les tout premiers mois, comme ça, là aussi, pareil, on dit, ah bah tiens, toi qui es calé là-dessus, moi je voudrais me lancer là-dedans, tu peux pas faire la formation. Donc, par exemple, j'ai une personne qui voulait lancer une chambre d'hôte, une maison d'hôte, et qui a besoin de formation, qui comprenait pas du tout comment on pouvait gérer la présence en ligne, les réseaux sociaux et tout. Et donc, j'ai fait la formation présentielle vraiment en one-one en plus, hein. Donc c'était de la formation, coaching, etc. à l'époque, sur une session, je sais pas, on avait peut-être fait 10 sessions de 2 heures comme ça et tout ensemble pour la former sur les outils, comment elle pouvait utiliser les outils, comment réfléchir à ça, etc. Donc j'ai commencé comme ça en fait, par le biais de ça, et donc j'ai commencé, bah, finalement après j'ai cherché d'autres clients en freelancing. Alors il y en a certains qui m'ont, franchement, avec lesquels ça s'est mal passé, je me suis retrouvé avec un impayé sur un ou deux, etc. Mais en tout cas je suis passé par cette étape là en création de site, community management, blog, etc. J'ai fait aussi la création de contenu. Et la création de contenu, j'en ai toujours fait, même quand j'étais salarié. J'avais un site qui s'appelait Cyberbounia, j'avais eu mon blog de mec, etc. Sur lequel, par exemple, Cyberbounia, je vendais de la pub à une époque. J'ai même vendu de la pub au journal local, et ça finançait une partie du truc. Mais j'ai pas poussé plus loin parce que j'aimais pas l'aspect vente, et aller taper aux portes des commerçants et tout, je l'ai pas fait. Donc ce qui fait que je n'ai jamais rentabilisé vraiment Cyberbounia, mais il y a une époque où je gagnais de l'argent. Je peux même dire qu'à une époque, d'ailleurs, ces trucs de pub, c'était, il y a une histoire qui est hallucinante, c'est que quand j'avais mon blog de mec, je crois que c'était mon blog de mec, je sais plus dans quel blog, j'avais trouvé une vidéo qui était assez intéressante et enfin très rigolote en fait. Et j'avais mis ça sur mon blog, et puis je sais pas, par le référencement, par je sais pas quel forum, avait mis un lien vers mon site, et je me suis retrouvé en fait à avoir des milliers de visiteurs à l'heure sur mon site, à tel point que le serveur a explosé. Ça marchait plus du tout, j'étais obligé de dériver en fait le contenu sur un autre hébergeur et tout. Et jusqu'au point aussi, j'ai pris une lettre d'avocat me disant que j'ai pas le droit de diffuser cette vidéo là qui était sur internet, mais j'ai pas le droit en fait de la diffuser, de la rediffuser, de la repartager, etc. Et sur cette page là à l'époque, j'ai mis de la pub, et c'était de la pub Google, et cette pub Google en fait en moins d'un mois a payé 2 ordinateurs. Donc il avait payé notamment l'ordinateur de ma femme, un petit ordinateur et tout, et puis il a payé un deuxième ordinateur, du matériel, etc. Et donc ce qui veut dire que il y a eu un mois ou deux, on avait gagné peut-être l'équivalent de 3 000-4 000 euros comme ça, juste en ayant une page avec de la pub dessus et une vidéo. Et la vidéo à la fin n'était même plus dessus parce que j'ai plus le droit de la mettre, en disant bah voilà, la vidéo était retirée, mais il y avait quand même encore les pubs, et les gens continuaient à cliquer sur la pub en pensant peut-être qu'en cliquant sur la pub ils verraient la vidéo, je ne sais pas quoi. Donc ce modèle-là, par exemple, fonctionnait. La publicité sur mes blogs, etc., fonctionnait. Sur mon blog de mec, j'avais de l'affiliation. J'ai aussi des partenariats avec des marques. Et puis, je suis mis à faire de l'écriture pour des marques. Par exemple, j'ai écrit pour Monoprix. J'étais démarché par une agence de contenu qui avait réuni, en fait, un petit groupe de, qui avait réuni 4 freelances. Enfin, 4 blogueurs et qui faisaient un peu de, d'écriture à côté pour qu'on rédige, en fait, le magazine en ligne de Monoprix. Voilà. Donc, l'écriture pour des marques. J'ai aussi écrit pour des banques, des choses comme ça, parce que par le biais de l'agence, après, j'ai fait ce genre de choses-là. J'ai fait de la formation présentielle. J'en ai parlé. J'ai commencé par ça, puis après j'ai fait de la formation présentielle avec des structures, des groupes. J'ai sous-traité, on me sous-traitait les formations, par exemple, vous savez, dans les CCI, trucs comme ça. J'ai fait beaucoup de formations en réseaux sociaux. J'ai fait des conférences aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, l'évolution des réseaux sociaux. Une CCI m'avait confié, par exemple, des cycles de conférences où j'ai fait, peut-être je faisais 10 conférences dans l'année, comme ça. Bon, bah, si la conférence, elle est payée 300, 400 euros, vous voyez, l'un dans l'autre, ça fait un revenu, hein, qui était réel. Et puis, souvent, en plus, il y avait des sessions un peu de coaching avec certaines entreprises et tout. Donc, ça me faisait des journées qui étaient intéressantes. Et des fois, en vendant une journée avec conférence, plus un peu d'accompagnement, etc. Bon, bah, en faisant ça une journée par semaine, c'était intéressant. Franchement, il y a eu des périodes où c'était, ça pouvait être intéressant. Fatigant. Pas très dans mon mode de vie que je voulais, mais sur l'instant, ça pouvait être intéressant. J'ai aussi fait du e-commerce. Et du e-commerce, j'en ai fait par exemple avec mon épouse. On a lancé une boutique en ligne de thé et tout. Début format box et puis thé et tout. Donc le format e-commerce, c'est un format que je connais extrêmement bien avec les difficultés et tout. Je fais du e-commerce aussi avec des produits faits à la demande. Par exemple, sur mon site Bertrand Soulier, vous avez un truc shop avec des t-shirts, Hamsters Running Club, etc. Bah là, vous commandez un t-shirt, ça passe chez un fabricant du t-shirt qui vous l'envoie directement. Une grosse différence dans les deux, hein, c'est que dans l'un, on avait le stock à la maison, il fallait aller à la poste tous les jours pour amener les paquets, les préparer, etc. Dans ce deuxième truc de shop là, vous achetez une casquette maintenant. Moi, je ne vois jamais la casquette en fait, hein, pas jamais chez moi. Je prends juste la, je touche pas beaucoup sur la vente du produit, mais je n'ai rien d'autre à faire. C'est eux qui s'occupent de tout. J'ai fait de l'enseignement aussi, notamment j'étais enseignant en université. Alors au départ, comme étant vacataire, hein, extérieur. Et puis je suis même devenu salarié. Et donc là. Par exemple, c'est là où on voit que la relation au temps et à la somme qu'on gagne est totalement différente parce que le vacataire est payé à l'heure, le salarié d'enseignement, comme j'étais maître de conférence associé à l'université, j'étais payé en salaire que je fasse, j'avais un minimum d'heures à faire dans l'année, mais l'heure devenait payée 3 ou 4 fois plus, hein, vraiment 3 ou 4 fois plus. Bon, je me suis rendu compte quand je suis redevenu vacataire, si je voulais vivre en tant que vacataire, fallait que j'arrive à faire peut-être 200 heures dans l'année ou 300 heures dans l'année. Alors que en étant associé à l'université, j'avais besoin d'en faire finalement 90 ou 100, je sais pas combien, enfin 2 ou 3 fois moins. Et puis il y avait des avantages, etc. Enfin voilà, il y avait plein de trucs qui venaient en plus, plein de bonus en plus. Mais l'enseignement, j'ai fait du contenu en ligne, donc ça, c'est encore ce que je fais, hein, par exemple le podcast, etc. Mais ça, j'en reparlerai. De la pub, vente de la pub sur mes sites, vente de la pub aussi sur le podcast, hein, par exemple. Là, cette semaine, j'ai enregistré une annonce pour Airbnb qui passera sur Kilomètre 42 Sport Nutrition. Bon, bah voilà, là, je touche une somme sur novembre et sur octobre et novembre pour que mon podcast soit sponsorisé par Airbnb, mais il a été par Nike, Adidas, par Dacia, je suis en train de chercher parce qu'il y a eu plein de marques, des belles marques, hein, d'ailleurs et tout. Mais ce format-là, par exemple, de podcast avec des sponsors fonctionne. J'ai aussi des sponsors autres qui passent sur le podcast. Par exemple, j'ai sponsoring un peu de mon compte Instagram, plus podcast, plus newsletter, etc., qui se font comme ça, avec sponsor argent et sponsor aussi en produits, par exemple. J'ai été aussi partenaire des marques. Par exemple, ça fait un bout de temps que j'ai pas acheté de chaussures de running, hein, par exemple, parce que j'ai une marque qui m'en a envoyé 3, 4, 5 paires par an, enfin voilà, des choses comme ça. Donc la pub, j'en ai parlé. Patreon, si j'ai testé le modèle Patreon. Sur Patreon, bon, ils sont encore actifs, hein. Il y a un Patreon de Kilomètre 42 où il y a plus que 2 personnes, je crois, dessus. Et j'ai un autre Patreon qui est moins actif et que petit à petit, je m'éloigne de Patreon. Je pensais gagner de l'argent avec Patreon. Je me suis rendu compte à quel point c'est difficile de faire du Patreon. Même si finalement, quand on fait le cumul des sommes gagnées par Patreon, bien sûr, hein, bien sûr que c'est pas inintéressant. Mais il y a un moment donné où je me retrouvais à faire par exemple, un podcast privé. L'ancêtre de ce podcast, un petit peu, à un moment donné, je faisais podcast privé, l'ancêtre du, on va dire, du journal du carnet de bord du lundi, là, je faisais en privé. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je passais peut-être 1 heure chaque lundi pour le faire et qu'il y avait que 9 personnes qui l'écoutaient. Ce qui faisait que c'était pas très rentable, en tout cas sur le plan du temps que je passais par rapport à ce que ça rapportait, parce que finalement ça rapportait pas beaucoup d'euros par rapport à la vente de formation, par rapport à du consulting ou du coaching ou je ne sais pas quoi. Et puis surtout, c'est qu'en fait, ce que je disais, ce que je racontais, l'aide que j'apportais n'aidait que 9 personnes, là où, quand vous écoutez ce podcast, il y a des centaines de personnes qui écoutent l'épisode de podcast. Donc, le temps que je passe ici, finalement, pour moi, je trouve plus rentable de vous parler à plus de personnes que de réserver ça à quelques personnes. Et puis, en même temps, ça me permet aussi de développer ma visibilité, de développer le reste. Donc ça, c'est un arbitrage, en fait. Mais Patreon, je le répète, peut être un modèle intéressant. Je trouve juste en fait que y a beaucoup de gens qui espèrent vivre du participatif, de faire du patron, etc. Et on se met un gros doigt dans l'œil, souvent en pensant que parce qu'on a écouté par plein de gens et tout, il y a beaucoup de gens qui ont passé sur la partie payante, Patreon et tout. Et en fait, non, le passage de l'un à l'autre n'est pas si évident que ça, surtout en France et en Europe où on n'a pas la culture du pourboire. Les Américains ont la culture du pourboire. Et vous savez, on vous amène un hamburger, il faut rajouter 10% pour le serveur, ce qui n'est pas le cas en France. Et le Patreon, Tipeee, etc. sont basés sur ce truc du pourboire, en fait. Donc il y a des gens qui ont la logique du pourboire, mais c'est pas aussi aux États-Unis, par exemple, dans la culture américaine, le pourboire est systématique parce que c'est comme ça. Le tarif qui est affiché sur le ticket, c'est le tarif, et puis il faut rajouter le pourboire. En France, le pourboire, il est inclus, et puis des fois, il est un petit peu en option, etc. Donc, cette culture-là autour du pourboire n'est pas la même. C'est pour ça que sur Patreon, par exemple, on voit plus de gens qui ont du mal, qui ont vraiment du mal en France, à avoir des gros Patreons qui sont bien développés. Il y en a. J'ai cité, par exemple, Patrick Béja, mais je pense que Patrick Béja, d'ailleurs, est beaucoup aidé aussi par le fait qu'il est aussi des podcasts en anglais, américains, etc., et tout, des gens qui sont plus sensibilisés aussi à cette logique-là. L'écriture de livres, j'ai un livre, vous êtes sur Amazon, j'ai un livre qui s'appelle Le Contenu Minimum Viable, je suis en train d'en écrire un autre. Bon, je peux pas dire qu'il me rapporte beaucoup de sommes, mais c'est vrai que tous les mois, quand même, je vois un petit somme. Alors, je le dis parce qu'en ce moment, ça me fait rigoler parce que je fais des factures à 9 ou 10 euros. Ma coopérative m'a dit, tu sais, tu peux pas faire de facture moins de 25 euros. Donc, j'ai regroupé sur plusieurs mois pour faire des factures, mais après, c'est chiant au niveau de la comptabilité. Mais il y a eu des fois où il y a eu plus que ça, quand même. Hein, mais je sais pas combien mon livre m'a rapporté, mais je suis pas édité, mais... Bien sûr, si vous étiez édité, une maison d'édition vous donnerait de l'argent en avance, etc. Après un pourcentage sur les ventes, c'est pas énorme en somme, hein, mais bon, c'est très bon pour la crédibilité par contre. Il y a des gens qui sont dans l'écriture de livres, qui gagnent beaucoup d'argent en auto-éditant leurs livres, en le mettant sur Amazon, hein, soyons clairs. Et même pas forcément des livres très où il y a beaucoup de rédaction, je veux dire des livres qui ressemblent plus à des recettes de cuisine, à des manuels, etc. Des livres de jeux, des carnets, des choses comme ça. Donc voilà, on peut faire plein de choses. Donc ça aussi j'ai testé et c'est un truc que je voudrais bien développer aussi. Podcast et sponsoring, je l'ai dit, vente de formation en ligne. Hein, ça fait partie des choses aussi sur lesquelles je suis et j'ai développé ça. J'ai mis très longtemps à aller sur la vente de formation en ligne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de ventes de vendeurs de formation. Je crois que c'était des marchands de tapis. Ils vendaient beaucoup de vide. Donc j'ai commencé par acheter certaines formations, voir un peu comment ça se passait. Et pour me dire si eux le font, pourquoi moi je pourrais pas le faire. Et là après, dans mon idée, c'était de me dire, si j'arrive à vendre une formation en ligne, derrière, ça me permet de créer du contenu tranquillement. Je crée du contenu, les gens vont acheter ma formation, etc. Bon, je n'ai pas vu tous les efforts marketing à faire pour y arriver, mais en tout cas, c'est un modèle qui, moi, m'intéresse, parce que là, oui, c'est vrai que, par exemple, cet été, je m'étais fait la remarque, à un moment donné, j'étais à la piscine, je reviens de la piscine, hop, une vente. L'après-midi, je vais à la plage, je reviens de la plage, hop, une vente. Et j'ai dit, à chaque fois que je m'éloigne de l'ordinateur ou qu'on va se baigner ou je sais pas quoi, il y a une vente. Bon, ça n'a pas été systématique, mais là, c'est vrai qu'en apparence, c'est du passif, sauf que c'était oublié que j'avais passé, en fait, des heures et des heures sur la page de vente, sur le contenu, sur créer du contenu, à amener des gens, etc. et tout. Mais ça fait partie de mon activité actuelle. Tout comme le coaching fait partie de mon activité actuelle aussi, vendre du coaching, je l'ai dit, hein, le coaching de groupe pour l'instant je laisse de côté, le coaching individuel par contre c'est quelque chose que je garde sur la partie préparation mentale, sur la préparation équilibre de vie, etc., mais aussi sur la partie podcasting et business. Donc différentes formes de coaching, etc., avec des coachings sur de l'hebdo, du coaching plutôt des séances mensuelles, etc., différentes formules. Mais tout un tas de formules en fait, hein. Et c'est bien de tester différentes choses parce que j'en arrive à la question du choix maintenant. Comment choisir ? Déjà, bien sûr, il faut analyser le mode de vie que vous avez envie d'avoir. Il faut analyser votre caractère. Faut voir aussi si vous pouvez avoir des premiers clients. Hein, je vous avais dit, moi, par exemple, j'ai commencé le freelancing, premier client. J'ai eu des gens qui m'ont tapé à la porte en me disant, tiens, tu pourrais On sait que t'es connu pour ça. Enfin, on sait que t'es connu pour ça. On te connaît pour ça plutôt, ou on sait que tu sais faire ça. Voilà, il faudrait plutôt le dire comme ça. Donc, est-ce que tu pourrais pas le faire pour nous? Tu pourrais pas nous aider? Ou alors, j'avais eu des, par exemple sur de la formation, on m'a dit bah tiens, il y a tel formateur, il cherche quelqu'un qui fait la formation en réseaux sociaux. Tu pourrais pas peut-être que je peux me mettre en relation. Enfin, il y a eu des choses dans ce genre-là. Donc ça, c'est intéressant parce que quand vous avez des premiers clients qui arrivent, bah ça vous rassure aussi, hein, c'est vraiment très important. Mais peut-être que vous allez vous dire, je sais pas. Et alors vous dire, je sais pas, donc je fais pas, c'est pas le bon truc. Il faut plus dire, je sais pas, je vais essayer de voir si ça me plaît, si ça correspond à ce que j'aime bien faire et tout. Pour avoir des belles découvertes, hein, en fait, hein, vous dire, j'étais un peu frileux sur le freelancing et puis finalement ça me plaît bien, ou sur l'écriture web, ouais, j'étais un peu frileux là-dessus, finalement ça me plaît bien. Vous vous rendez compte, ça vous laisse une gestion de votre temps qui est un peu différente, que donc faut le tester, en fait, je veux dire. C'est-à-dire que le choix, en fait, pour moi, vient de cette analyse-là, de dire bah il y a ça qui existe, mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance si c'est quelque chose qui va vous plaire. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez pas savoir si ça vous plaire, si c'est fait pour vous, si c'est intéressant ou pas. Alors, le truc, c'est faut essayer, mais il faut essayer suffisamment longtemps et y mettre vraiment les efforts pour ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous décidez que votre modèle à vous, c'est de lancer un podcast, il faut pas vous dire, je lance un podcast et je fais 4 épisodes, dans 5 épisodes, je suis sponsorisé, dans 10 épisodes, je gagne ma vie avec. Sur le modèle du podcast, je sais qu'il y en a qui le vendent comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Lancer un podcast, c'est un projet, et moi je le dis parce que j'ai un projet de formation autour de ça. J'appelais plutôt ça un projet 24, donc comme 24 mois, plutôt qu'un projet 24 comme 24 jours. Comme certains disent, lancez votre podcast, je vous aide à le monétiser et vous allez gagner 5 000 € dans 2 mois. Je vois, parce que j'en ai vu certaines, la plupart du temps, en fait, ce sont des promesses qui sont intenables, ou alors qui sont tenables que si c'est pas le podcast qui rapporte de l'argent, mais c'est la prestation de service autour du podcast qui rapporte de l'argent. Oui, il y a des podcasteurs qui font, par exemple, du freelancing pour, ils ont un sponsor sur le podcast, mais en même temps, ils leur font des vidéos, ils leur font du contenu, ils leur font ça, ça, ça et ça, tout. Donc, ils ajoutent plein de choses qu'ils vont faire autour de ça. Et ce n'est pas le podcast, la pub sur le podcast en elle-même qui vendent. C'est finalement tout un tas de services aussi autour, à côté de ça, qui leur permettent de gonfler le chiffre. Donc ça, de savoir si ça vous plaît ou pas, comment vous le savez, ben, il faut essayer, il faut voir si vous pouvez proposer ça, si vous avez les outils pour proposer, si une fois que vous le faites, si vous êtes dans votre domaine ou pas, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous aurez peut-être des bonnes surprises, ou peut-être des mauvaises surprises. Peut-être que vous pensez que faire du coaching vous plaît, et puis en fait vous avez détesté ça, vous aimez pas ce truc-là, vous trouvez que ça vous fatigue, ça vous épuise et tout. Je le répète, hein, moi je le dis, autant je peux faire 3 épisodes de podcast dans la journée, enregistrer avec des invités 3 épisodes de podcast et enregistrer moi tout seul dans mon coin 3 épisodes de podcast, c'est pas un problème. Autant les séances de coaching, si je dépasse la séance de coaching ou 1 ou 2 séances de coaching dans la journée, à la fin je suis en général ratiboisé. Si je rajoute épisode de coaching plus enregistrement de podcast, je suis ratiboisé. Donc je suis ratiboisé par rapport à mon mode de vie, j'arrive pas à faire du sport, je deviens irritable, je suis pas très sympa avec ma femme et ma fille, enfin voilà, tous ces trucs là et tout, donc ça correspond pas à un mode de vie que je veux, en fait. De même que, par exemple, à un moment donné, aller faire des formations à droite à gauche, faire de l'enseignement, je l'ai arrêté parce que ça correspondait pas au mode de vie que je voulais. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais tout le temps à droite à gauche, tout le temps avec d'autres personnes qui, moi, suis introverti, ça me vidait. Le matin, je partais en train pour aller faire des cours à droite à gauche, je revenais en train, et j'avais envie d'avoir plus de temps avec ma fille, enfin voilà, tout un tas de combinaisons qui au bout d'un moment ne marchaient pas. Et quand on m'a reproposé, par exemple, de renseigner, chaque année, hein, rien que cette année, je pense que j'ai eu 3 propositions d'enseignement. Je pourrais faire 80 heures de cours à peu près cette année si j'avais voulu. Sauf que fallait que j'aille une fois à je sais pas où, une autre fois à je sais pas où, une autre fois que je prépare des trucs que je savais pas faire. Et puis j'avais les contacts avec il fallait que je fasse les TD, fallait que ça me passait du temps. Donc les TD, c'était avec des petits groupes, avec passer du temps. Et puis il y a les copies, les corrections de copies, les suivis de dossiers, de stages, etc. Au bout d'un moment, j'ai dit non, je sais, je l'ai fait pendant 10 ans. Et je sais que j'ai envie d'aller vers autre chose. Et donc ça, c'est vraiment important. Mais en fait, je peux le dire parce que je l'ai testé, en fait, parce que je l'ai vécu, parce que je sais ce que c'est de le faire, de comment le faire, etc. Je sais aussi qu'il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas excellent. Par exemple, la gestion de projet pour des clients et tout, je suis pas très bon dedans. Gérer un site, créer un site pour un client, si c'est sur quelques semaines, oui. Si c'est sur des mois et des mois que ça s'étend, au bout d'un moment, je perds le fil. parce que je ne suis pas câblé pour ça. Donc ça, c'est important de connaître votre caractère et de vous dire, par exemple, ben oui, peut-être qu'il y a certaines activités que je peux les faire, mais c'est pas du tout impossible, par exemple, que vous puissiez dire, moi j'ai envie de travailler sur du long cours avec des clients, donc ça va faire ça, ou alors j'aime bien travailler sur des trucs qui sont plus flash, j'ai envie de dire. J'avais imaginé, par exemple, à un moment, une offre création de site internet en mode flash. C'est-à-dire, on crée ça en un mois. On se donne un mois, on fait ça et tout. Mais on dépasse pas. Parce que moi, je sais qu'au bout de 2-3 mois, au bout d'un mois, ça me gave. Il y a toujours des allers-retours et tout. Ça devient pénible. Et ce n'est pas dans mon mode de gestion. Donc, comment choisir? Ben, déjà, vous prenez la liste de tous les modèles que vous avez vus, que vous avez pu cerner. Ça, c'est un premier point. Vous regardez aussi la vie que vous avez envie d'avoir, le temps dont vous disposez maintenant, les compétences que vous avez pour faire ça. Comment vous pouvez essayer de voir les uns et les autres si ça match ou pas. On vous dit, ben, tiens, j'ai des compétences dans tel domaine, je pourrais les vendre de telle manière, les proposer de telle manière, peut-être par un produit numérique, peut-être par un truc. Je peux essayer, je vais essayer de voir ce que ça donne. Je regarde. Je le dis, hein, souvent le plus facile, c'est de démarrer par le coaching parce que vous n'avez pas de choses à préparer à longtemps à l'avance. Vous n'avez pas cette histoire de dire je vais travailler des heures et des heures sur une formation ou des mois ou des semaines ou des mois sur des formations en espérant la vendre. Mais la vente de formation pourrait se faire d'une autre manière. Hein. Vous pourriez faire de la pré-vente, etc. Il y aurait plein d'autres moyens. Mais vous, le coaching, l'avantage, c'est que vous dites, bah, il y a quelqu'un qui vous dit, bah, tiens, j'ai besoin d'une séance de coaching, de consulting sur tes compétences. Et si vos compétences, vous n'avez pas besoin d'une grosse préparation parce que vous avez déjà vos compétences, bon, ben. Bah, ça peut être un premier point de démarrage, ça vous permet de démarrer, de voir ce que c'est et tout, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que c'était pas l'idéal et que peut-être petit à petit, en fait, vous voulez avoir d'autres choses. Et puis, je répète, ou je l'ai peut-être pas assez dit, on peut avoir en fait un mix de tout ça, c'est-à-dire que se dire qu'on peut mixer, pourquoi pas avoir, comme moi par exemple, hein, si on prend le mix actuel, je fais de la formation en ligne, je fais du coaching, j'ai la publicité sur mes podcasts, j'ai des partenariats aussi, on va dire, en produits, par exemple. L'un dans l'autre, finalement, ça me permet aussi de dire, bah tiens, si par exemple sur une semaine et sur des mois, par exemple, je n'ai pas le sponsoring sur les podcasts, j'ai la vente de formation ou le coaching qui vont venir remplacer, cet équilibre là aussi devient aussi, j'ai envie de dire, un petit peu sécurisant, hein, peut être très sécurisant. Il y a un truc, un gros risque en freelancing, c'est d'avoir qu'un client, et là on est presque des salariés déguisés, n'avoir qu'un gros client et de passer tout son temps pour lui, c'est un gros danger. Mais n'avoir aussi, par exemple, de faire reposer que sur la publicité, par exemple, moi j'estime que c'est un gros danger, c'est pour ça que je ne veux pas faire que de la publicité. Mais même d'ailleurs, je le dis, c'est la publicité sur les podcasts, il y a des trucs dans la publicité sur podcast qui m'énervent un petit peu, et dans mon plan de vie, l'idéal, ce serait même de supprimer la publicité sur certains des podcasts. Bon, ça c'est un autre débat, un autre plan, mais ce qui montre aussi qu'il faut être souple avec ça, que vous pouvez évoluer, que vous allez évoluer, que en fonction de ce que vous avez envie de faire, il y a des choses qui vous semblent là maintenant évidentes et puis qui le sont, ils le seront moins dans quelques temps. Il y a des choses que vous pensez pouvoir faire et puis finalement vous êtes peut-être pas très heureux dedans. Et puis il y a des choses que vous avez fait pendant des années, vous dites bah c'est ce que je peux vendre parce que j'ai déjà fait. Mais peut-être qu'en fait vous rendez compte que vous n'avez peut-être plus envie de le faire et que petit à petit vous allez moins le faire. Et puis il y a des accélérateurs. Et puis il y a des choses qui marchent mieux que ce que vous avez pensé. Et puis il y a des choses qui ont marché moins bien que ce que vous avez pensé. Pour l'anecdote, quand j'ai voulu vendre ma première formation en ligne, je m'attendais à faire plein de ventes parce que j'avais des milliers d'écoutes du podcast. La première journée, j'ai dû vendre une formation à 29€. Autant dire que mes espoirs de revenus passifs, en disant bah, maintenant que cette formation est créée, elle va me rapporter sans que je fasse grand-chose, et juste en continuant à parler dans mon micro, ont été vite douchés. Mais voilà, c'est aussi ça l'apprentissage, hein, c'est de tester, de voir, et puis d'apprendre et de voir ce qui marche, ce qui marche pas, et d'apprendre comme ça. Mais le business model, en tout cas, vous savez, chez startup, il y a un grand mot, c'est pivoter. C'était le grand mot à la mode, on pivote, on a de l'argent, on pivote, on fait ça. C'est quoi en fait? C'est un petit peu aussi la recherche du spaghetti qui colle au mur. Si vous lancez des spaghettis pour savoir s'ils sont cuits, vous savez, il y a le truc, est-ce que ça colle au mur ou pas? Il y a quand même une question qui se pose pour vous, c'est finalement, qu'est-ce qui colle le mieux à votre mur, à vous, et par rapport à ce que vous voulez faire? Ben, il faut faire plusieurs tentatives, il y a des choses qui vont vous plaire, des choses qui vont vous plaire, mais peut-être qui sont pas tenables, ou alors il faut modifier la manière de les exercer. Puis il y a peut-être des choses que vous aviez envie de faire, puis vous vous rendez compte qu'en fait ça vous plaît pas du tout. Et puis il y a peut-être des choses sur lesquelles vous étiez un peu réticent, et puis vous vous rendez compte que ça vous plaît, et que finalement vous allez accentuer ce truc-là. Mais en tout cas, si vous ne l'essayez pas, si vous n'essayez pas déjà de le structurer, de le poser, de le structurer, de faire un petit peu un business, un petit plan. Alors, je dis pas de faire un plan en disant, bah voilà, je vais vendre telle prestation, je vais aider telle personne à faire telle chose. Et là, je vous renvoie sur ce que j'ai raconté la semaine dernière, avec la fameuse équation d'Alexandre Mozy, par exemple. J'ai telle facilité pour faire ça, je peux accélérer la vie des gens là-dessus. Je vais faire une offre là-dessus, je vais essayer de la proposer à telle personne. Je vais voir comment ça se passe. Une fois que vous avez essayé de faire ça pendant un certain temps, si vous vous rendez compte que c'est votre domaine, continuez. Si vous vous rendez compte que c'est pas votre domaine, vous pivotez. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je n'ai rien d'autre à rajouter, sinon que je vous rappelle que sur le mois d'octobre, si vous laissez un commentaire sur Apple Podcast, laissez-moi des commentaires. Je ferai à la fin du mois un tirage au sort parmi ceux qui ont laissé des commentaires sur Apple Podcast pour vous offrir une séance de coaching 30 minutes, one-one, individuel en fait, pour discuter de vos projets, podcast, business, création en ligne, etc. Donc n'hésitez pas. Vous allez sur Apple Podcast, vous laissez un commentaire et moi à la fin du mois, comme ça je fais ça sur tout le mois d'octobre, à la fin du mois en fait je pourrais prendre peut-être deux personnes qui ont laissé des commentaires sur le nombre de commentaires qu'il y aura pour vous proposer en fait tout simplement une séance de discussion coaching one-one pendant 30 minutes. Donc hop, n'hésitez pas là tout de suite, là, faites-le là maintenant que c'est terminé, laissez un commentaire et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.